Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens de ce premier jour de mai 2018. Hélène Denis avec vous et aussi en compagnie de Jean-Sébastien Laliberté. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Oh, le joyeux mois de mai qui est arrivé. Fait tellement beau ce matin, les gens sont tout sourire.
On l'attendait avec impatience.
Oui, est-ce que c'est pour cette raison que vous m'avez accueilli avec un « Bonjour Hélène, tout souriant »
Mais absolument, je m'étais ennuyé de vous depuis cette petite absence sonne.
C'est donc gentil de votre part et j'en profite pour saluer et surtout remercier François Brodeur qui était à la barre de l'émission et qui, je suis certaine, a assuré, comme on dit.
Il a fait un travail impeccable.
Merci.
1er mai, journée internationale des travailleurs et on en parlera possiblement aujourd'hui avec l'augmentation du salaire minimum. Et également, je ne pense pas qu'il y ait un lien entre les deux, mais en plus d'être la journée internationale des travailleurs, c'est la journée mondiale de l'asthme.
Ah bon?
Mais je ne pense pas qu'il y ait de lien entre les deux.
J'espère.
Alors, je vais tenter d'y aller quand même assez rapidement. Ma feuille est bien remplie aujourd'hui avec ces événements marquants, ces éphémérides dans ce 1er mai. Tout d'abord, en 1635, à Paris, la première pierre de la chapelle de la Sorbonne est posée. Et dans une même thématique, 1688 à Québec, Notre-Dame des Victoires, la plus ancienne église en pierre au Canada, est consacrée. 1707, l'union de l'Angleterre et de l'Écosse est proclamée, créant ainsi la Grande-Bretagne. 1er mai 1756, signature du premier traité de Versailles. 1er mai 1757, un an plus tard, signature du second traité de Versailles. 1775, voulu par le gouverneur Carleton, l'acte de Québec entre en vigueur, qui consacre le droit civil français et la liberté de culte. 1786, toujours un 1er mai, l'opéra Les Noces de Figaro de Mozart est créé à Vienne. 1840, les premiers timbres poste autocollants sortent à Londres. 1er mai 1886, à l'appel de l'American Federation of Labor, plus de 350 000 travailleurs débraient aux États-Unis pour réclamer la journée de travail de 8 heures. 1889, première célébration de la fête du travail. De la fête du travail, en fait, de la journée mondiale du travail, de
oui,
la fête
hein?
des travailleurs.
Parce que la fête du travail, c'est en septembre.
Exact. 1909, la prohibition de l'alcool débute en Ontario. 1912, toujours un 1er mai, émission des premiers billets de 5 $ au Canada. 1930, la jadis 9e planète de notre système solaire, oui, Pluton reçoit son nom officiel. 1931, ouverture de l'Empire State Building à New York. 1940, Londres annonce que 335 000 soldats anglais et alliés bloqués par les Allemands ont pu évacuer Dunkerque. 1er mai 1941, à New York, Orson Welles présente son film Citizen Kane. 1961, Fidel Castro annonce la nationalisation des écoles privées catholiques et... également, décide qu'il n'y aura plus d'élections libres à Cuba, accessoirement.
Bon.
1er mai 1963, Québec nationalise 11 compagnies d'hydroélectricité. 1967, la petite nouvelle People du jour, le mariage d'Elvis Presley et Priscilla Beaulieu est célébré à Las Vegas. 1er mai 1972, la Cour suprême déclare l'alcootest valide au Canada. 1990, la lutte pour les jeux de hasard fait 2 morts dans la réserve Mohawk d'Akwesasne près de Montréal. En 2001, l'administration de George W. Bush promet de créer un système de bouclier antimissile pour les États-Unis, connu entre autres comme étant le projet Star Wars, qui avait été mis de l'avant d'abord par l'administration de Ronald Reagan. En 2009, encore un 1er mai, l'ancien hockeyeur vedette Guy Lafleur est déclaré coupable de témoignages contradictoires au procès de son fils. Et 1er mai 2011, Jean-Paul II est béatifié par son successeur Benoît XVI lors d'une cérémonie suivie par 1,5 million de fidèles massés place Saint-Pierre à Rome. 1er mai, un seul anniversaire de naissance ou de décès. On y va avec l'anniversaire de décès en 1904 du compositeur tchèque Anton Dvorak.
Merci beaucoup Jean-Sébastien.
Avec grand plaisir, comme toujours.
À la une de la presse, plus lutte contre le trafic de fentanyl, les Américains louangent des enquêteurs québécois. Les autorités américaines viennent de frapper un grand coup contre des exportateurs chinois. Au cœur de l'opération, un petit groupe de la GRC basé au Québec. Affaire du nouveau dans l'air à l'aéroport, 2,5 milliards seront investis sur 5 ans à Montréal-Trudeau. Seconde guerre mondiale, Pays-Bas, la légende d'un « sauveur » entre guillemets québécois. Kanye M. Trump, autopsie de l'admiration controversée du rappeur pour le président. Et exclusif politique, David Hurtel partira aussi. Nouvelle pratico-pratique, mais qui intéresse tout le monde, l'essence bondit à 1,48 $ le litre à Montréal. Le prix au détail de l'essence atteint mardi, aujourd'hui, un niveau rarement vu depuis de nombreuses années au Québec, 1,48 $ le litre d'ordinaire à Montréal et à Laval. Lundi après-midi, plusieurs postes d'essence affichaient un prix inférieur de plus ou moins 18 cents, selon ce qu'affiche le site web essencequebec.com. Comme d'habitude, aucune des autres régions du Québec n'avait encore emboîté le pas vers 5h30 mardi. Le prix moyen de l'essence ordinaire était néanmoins évalué pour l'ensemble du Québec à plus de 1,40 $, largement supérieur à celui des derniers mois. Selon le site www.gasbody.com, il y a quelques heures, les prix moyens de l'essence les plus élevés au Canada étaient relevés en Colombie-Britannique, dans les territoires du Nord-Ouest et à Terre-Neuve et Labrador. Les plus bas ont été observés en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba. Plusieurs postes d'essence d'Ottawa affichaient mardi matin un prix de 1,27 $ le litre d'ordinaire, 21 cents inférieur à ceux de Montréal et de Laval. Le prix du baril de pétrole brut a reculé lundi soir de 34 cents US à la bourse NYMEX, New York MEX à New York, à 68,23 $ US. Jean-Sébastien nous en parlait en cette journée des travailleuses et travailleurs. Salaire minimum 75 cents de plus de l'heure dès aujourd'hui. Aujourd'hui, 1er mai, le salaire minimum passe de 11,25 $ à 12 $. Environ 230 000 personnes profiteront de cette hausse de 75 cents de l'heure, soit la plus forte depuis deux décennies. À cette occasion, l'Institut de la statistique du Québec a colligé faits et chiffres pour témoigner de son évolution depuis 20 ans. Plus d'employés de 15 à 20 ans à 24 ans, dis-je bien, sont rémunérés au salaire minimum aujourd'hui. Environ 60 % des jeunes employés étaient payés au salaire minimum en 2017, contre 52 % en 1997. Cela se fait au profit des 25-54 ans, dont la part dans le salaire minimum a diminué de 41 % à 29 % selon Marc-André Demers, analyste en statistiques du travail à l'Institut. La proportion des étudiants dont l'emploi est au salaire minimum a également et notablement grimpé de 33 % en 1997 à 51 % en 2017. David Hurtel partira aussi. Élu depuis 2013, David Hurtel, ministre de l'Immigration, ne sollicitera pas un nouveau mandat. Des sources libérales ont indiqué hier que son départ était acquis depuis le dernier mois, bien qu'au fil des jours, la décision du député de Viau ait pu varier. Cet autre départ, trois autres ministres importants ont aussi renoncé à se présenter aux prochaines élections, en dit long sur l'atmosphère qui règne au sein de l'équipe libérale, écrit Denis Lessard, toujours devancé par la coalition Avenir Québec dans les sondages sur les intentions de vote. Chez ses collègues, cette décision en surprendra plusieurs, a pu constater la presse. Depuis qu'il a été affecté au dossier de l'immigration, David Hurtel paraît plus heureux. Son passage récent à Ottawa dans le dossier des réfugiés irréguliers qui arrivent au Québec l'a montré sous un jour plutôt favorable, a rappelé un collègue du Conseil des ministres. Son attaché de presse s'est refusé à tout commentaire hier. Le départ de David Hurtel s'ajoute à ceux de Martin Coiteux, Jean-Marc Fournier et Stéphanie Vallée. Le départ du président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, paraît aussi acquis Laurent Lessard à l'agriculture et Geoffrey Kelly aux affaires autochtones sont sérieusement en réflexion sur leur avenir. C'est à Montréal que l'experte en sécurité Chelsea Manning et lanceuse d'alerte prendra la parole publiquement pour la première fois à l'extérieur des États-Unis. L'Américaine visitera la métropole ce mois-ci à l'occasion de l'événement C2 Montréal. L'organisation doit confirmer la présence de sa bonne prise aujourd'hui. Condamnée à la prison pour la fuite de 700 000 documents militaires confidentiels publiés par WikiLeaks en 2010, Chelsea Manning est devenue, après sa libération il y a tout juste un an, une figure importante de la défense des droits de la personne et de ceux de la communauté LGBTQ+, l'ex-soldat américain anciennement connu sous le nom de Bradley Manning, s'est déclaré transgenre derrière les barreaux de la prison militaire. La jeune femme s'ajoute à la liste des conférenciers de la 7e édition de C2 Montréal, qui se tiendra du 23 au 25 mai. Les chambres partagées par 4 patients à l'hôpital général juif, le gouvernement québécois accorde 200 millions à l'établissement montréalais, notamment pour moderniser les chambres des unités de soins. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en a fait l'annonce hier matin à Montréal aux côtés du président du Conseil du Trésor, Pierre Arcan, et du député libéral, David Birnbaum. Ainsi, la proportion de chambres individuelles dans l'hôpital passera de 18 % à 70 %. Politique, dimanche, je pense qu'on a subi un procès sur la place publique d'accusations, de tirs nourris, pour ensuite se faire tendre la main pour un retour. Est-ce qu'il y a un être humain normalement sensé qui retournerait dans des conditions comme celle-là? Je pense que personne dans les dissidents dont je fais partie ne souffre du syndrome de Stockholm. Un des 7 députés dissidents du Bloc québécois, Michel Baudrias, qui a dit cela, les députés annonceront aujourd'hui qu'ils coupent définitivement les ponts avec le parti dirigé par Martine Ouellette, selon ce qu'a appris la presse canadienne. Chaque école devrait avoir un directeur qui lui soit attitré, croient les partis d'opposition à l'Assemblée nationale. Le personnel dans une école s'est rendu que la seule personne qui est permanente, c'est la secrétaire, a déploré la députée péquiste Carole Poirier, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation primaire et secondaire. Les gens qui deviennent directeurs d'école ne le font pas parce qu'ils tombent en amour avec les fichiers Excel, a soutenu Jean-François Roberge, un ex-enseignant devenu porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière d'éducation. La presse a révélé hier que le recrutement et la rétention de directeurs d'école et d'adjoints sont difficiles au Québec. Un problème récurrent est documenté depuis 2001. Selon l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, ce phénomène s'expliquerait par l'ampleur des tâches de travail et par les longues heures de travail, en plus des tensions entre les directeurs et les enseignants, débordées de part et d'autre. Et finalement, Babe, le cochon, peut dormir en paix. L'animal domestique de 27 kg ne sera finalement pas expulsé du condo de l'Est de Montréal qu'il partage avec ses maîtres et leur fille de 11 mois, Mario Ramos, et sa femme, Sarah Maude Ravenel, ont poussé un soupir de soulagement en apprenant la nouvelle hier lors d'une visite du maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais. Le couple a failli perdre son animal de compagnie en raison d'une plainte déposée par un voisin. M. Lessard-Blais leur a toutefois annoncé hier que les propriétaires actuels de micro-cochons pouvaient garder leur animal. Dans un courriel transmis à la presse canadienne hier, la Ville de Montréal a déclaré qu'elle rédigeait le règlement avec le service juridique pour déterminer les détails de sa politique sur les micro-cochons.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille sans cesse après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages. Je les ai vus. Pour se payer tout le confort, quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
Allez, encore une fois, bande de feignants là.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver.
Grand classique d'Henri Salvador, 1965, le travail, c'est la santé. Bien sûr, Henri, bien sûr.
À la une du Devoir en ce premier jour du mois de mai, terreur à Kaboul, que faire quand les attaques visent les électeurs, les écoliers et les journalistes? La saignée se poursuit au Bloc québécois, la vice-présidente démissionne tandis que le président continue de réfléchir à son avenir. Les leçons de la grande récession, savoir réinventer les règles du jeu. La crise économique a remis au goût du jour un État plus interventionniste. Netanyahou accuse l'Iran à un programme nucléaire clandestin, dit le premier ministre israélien. Crue printanière, des inondations et des évacuations, mais rien de comparable à 2017. Alors, sous la photo à la une du Devoir, parmi les victimes du double attentat à Kaboul qui a fait au moins 25 morts, dont plusieurs journalistes, figure le chef photographe de l'AFP, l'agence France-Presse, en Afghanistan, Shah Marai, 41 ans. La photo ci-dessus est de lui. Un homme pleure la mort de son père, tué par des hommes armés. Une photo qui date du 12 octobre 2016. Le Conseil général du Bloc québécois de cette fin de semaine n'a rien réglé. Au contraire, non seulement Mario Beaulieu s'interroge sur son avenir au sein du parti, mais la vice-présidente, Kédina Fleury-Sanson, confirme au Devoir qu'elle quitte ses fonctions. Et les 7 députés démissionnaires s'apprêtent à claquer la porte du parti pour de bon. Les débats étaient houleux au Conseil général de Drummondville et les votes qui ont scellé le sort du référendum souhaité par Martine Ouellet très serrés. Dans le lot de ceux qui ne partageaient pas les décisions des délégués se trouve la vice-présidente du parti. Celle-ci estime qu'elle ne peut plus remplir ses fonctions si elle est en porte-à-faux avec les positions qu'elle aurait à défendre dans son rôle au sein de l'exécutif du Bloc. Évidemment, si mes positions dans l'instance que je préside sont minoritaires, c'est difficile d'en arriver à porter la voix du groupe. Je ne peux pas être porte-parole si je représente la minorité, a expliqué Kédina Fleury-Sanson au Devoir lundi. Dans un contexte politique, la solidarité et le ralliement sont impératifs pour garder une discipline. Tu te rallies ou tu pars. Madame Fleury-Sanson a choisi la seconde option et en a avisé la chef Martine Ouellette de même que le bureau national du parti lundi après-midi. Ce qui l'a surtout dérangé dimanche, c'est que le Conseil général décide de permettre à la permanence du Bloc de prendre part au référendum et d'injecter des fonds pour l'encadrer, ce qui inquiétait certains bloquistes qui craignaient de voir les instances s'en mêler pour aider Martine Ouellette. C'est évident, il faut que les instances soient neutres, martèle Mme Fleury-Sanson. Climat, l'ONU a appelé lundi le monde à être plus ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique avant qu'il ne soit trop tard au premier jour d'une réunion de quelques 200 pays signataires de l'accord de Paris. Le laps de temps qui nous est imparti pour nous attaquer au changement climatique arrive bientôt à échéance, a déclaré à Bonn, en Allemagne, la responsable climat de l'ONU, Patricia Espinoza. Nous devons accroître radicalement nos ambitions, a-t-elle insisté lors d'une conférence de presse retransmise sur Internet. L'accord de Paris sur le climat de 2015 vise à contenir le réchauffement mondial sous les 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais les engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, pris jusqu'à présent par les États signataires, conduiraient à un monde à plus 3 degrés Celsius. Près de 300 résidences ont été inondées lundi au Québec en raison des crues printanières. Les précipitations des derniers jours ont entraîné le débordement de quelques cours d'eau, menant à plusieurs évacuations préventives. D'autres inondations pourraient se produire, mais loin du niveau exceptionnel de l'an dernier. Les crues ont atteint leur sommet lundi avant midi en Chaudière-Appalaches et dans le centre du Québec, a fait savoir au Devoir Pierre Corbin, directeur des opérations chez Hydro-Météo. Plus de 40 mètres de pluie sont tombés dans ces régions. Les niveaux des eaux se sont stabilisés dans plusieurs secteurs en fin de journée, ce qui devrait entraîner une accalmie jusqu'à mercredi. La situation est plus critique au Nouveau-Brunswick. Le centre-ville de Fredericton était toujours inondé lundi, mais le niveau du fleuve Saint-Jean semblait se stabiliser. La Croix-Rouge canadienne a indiqué qu'une soixantaine d'occupants de 26 résidences avaient été évacués par les autorités, sans compter ceux qui étaient déjà partis d'eux-mêmes depuis les crues de vendredi. Les résultats des élèves québécois de deuxième secondaire en mathématiques ont augmenté de façon significative de 2010 à 2016. Ils sont les meilleurs du pays dans cette matière, révèle un rapport du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada publié lundi. Le rapport, qui a examiné les résultats de quelques 27 000 élèves de deuxième secondaire à travers le pays, indique que les performances des élèves de deuxième secondaire en mathématiques se sont améliorées dans toutes les provinces, sauf l'Ontario, durant cette période. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé lundi le quasi-doublement du salaire minimum, augmenté de 95,4 % alors que l'inflation galopante est attendue à 13 800 % cette année par le FMI. Il s'agit de la troisième hausse depuis le début de l'année pour ce salaire minimum qui s'établit désormais à 2,56 millions de bolivars, environ 37 $ selon le taux de change officiel, qui ne permet toutefois d'acheter qu'environ 2 kilos de poulet. Nicolas Maduro rejette les arguments des analystes qui attribuent la grave crise économique du pays à la chute des cours du pétrole, son unique richesse, et à une mauvaise gestion. Et il assure que le Venezuela est victime d'une attaque économique orchestrée depuis Miami et Bogota pour le renverser. Le président américain Donald Trump a affiché lundi sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le Nigeria dans la lutte antiterroriste en recevant Muhammadu Buhari, premier dirigeant d'Afrique subsaharienne invité à la Maison-Blanche depuis son arrivée au pouvoir. Le Nigeria entre dans sa 9e année de lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram qui a dévasté le nord-est du pays. Le conflit a fait plus de 20 000 morts et des centaines de milliers de déplacés. Le locataire de la Maison-Blanche a également affiché sa volonté d'aborder la question des chrétiens tués, assassinés au Nigeria. Royaume-Uni, dure journée pour la première ministre britannique Theresa May. Après la démission de sa ministre de l'Intérieur emportée par l'affaire Windrush, les Lords ont octroyé lundi au Parlement le droit de bloquer un Brexit sans accord avec l'Union européenne. Madame May a nommé lundi à la tête du ministère de l'Intérieur Sajid Javid après la démission d'Amber Rudd, forcée de quitter ses fonctions dans la folie du scandale entourant le traitement réservé par ses services aux immigrés originaires des Caraïbes. Et le cardinal australien George Pell sera jugé pour au moins une agression sexuelle selon le tribunal de Melbourne. George Pell, 76 ans, l'un des plus proches conseillers du pape François, est accusé d'agressions multiples qui se seraient déroulées il y a de nombreuses années.
A buffet, a Kleenex, we'll be ready for the grand. just dump the guy ASAP. Wouldn't it be lovely if you just dump the guy ASAP?
La chanteuse Lisa Leblanc qui nous offrait cette sympathique pièce « Dump the Guy ASAP ».
Du Journal de Montréal, de l'eau, une photo d'une maison entourée d'eau, des personnes qui circulent à bord d'un bateau pneumatique, qu'on appelle aussi un Zodiac, et on peut lire « Et ce n'est qu'un début », point de suspension. Les études des chercheurs québécois confirment qu'il y aura une augmentation des précipitations en raison des changements climatiques qui entraîneront une croissance des inondations, comme en Beauce hier. Nouvelle prime de 100 000 $ pour des spécialistes. Chronique Le choc des idées, migrants, Trudeau doit agir, Joseph Facal, et déprimant pour les libéraux, Antoine Robitaille. Mais d'abord, en page 2, le Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière a distribué des condons périmés dans une école secondaire de Terrebonne jeudi dernier, ce qui a semé l'inquiétude parmi les élèves et leurs parents. Laurie-Anne Mayotte, qui étudie en secondaire 5 à l'école Armand Corbeil de Terrebonne, n'en revenait pas quand elle s'est aperçue que les condons distribués lors d'une activité de sensibilisation dans son cours d'éthique et culture religieuse étaient périmés depuis septembre 2015. Les étudiants de l'école se sont rapidement mobilisés. Selon Éric Ladouceur de la Commission scolaire des affluents, les contraceptifs ont été fournis et distribués par le Centre intégré de santé de services sociaux de Lanaudière, CISSSL, qui organisait l'activité. Il semble qu'il y a eu un mélange de boîtes. Ils ont pris par erreur une boîte de condoms périmés, explique M. Ladouceur. Le CISSSL reconnaît avoir distribué par mégarde des condoms périmés à trois groupes de secondaire 5. Notre organisation procède actuellement à la vérification de l'ensemble de la marchandise distribuée sur l'ensemble du territoire, assure Soli Mas, agente d'information à la Commission scolaire des affluents. Donc, c'est-à-dire au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. Laurie-Anne Mayotte déplore le bris de confiance qui crée. Laurie-Anne Mayotte déplore le bris de confiance créé par l'incident. Autour des médecins spécialistes gestionnaires de passer à la caisse, une nouvelle prime gestion, écrit entre guillemets, prime gestion de 100 000 $ leur est consentie. Depuis quelques semaines, les directeurs de services professionnels des SP, qui sont médecins spécialistes, bénéficient d'une indemnité additionnelle équivalent à 43 % de leur salaire, révèlent des documents obtenus par notre bureau d'enquête, le bureau parlementaire. À cela s'ajoute une nouvelle allocation administrative calculée en fonction de l'importance de leur établissement qui oscille entre 2 et 13 %. Les omnipraticiens qui occupent cette fonction et font le même travail n'ont pas droit à la prime gestion et doivent se contenter de l'indemnité administrative. Une disparité de traitement vivement dénoncée par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Le Dr Barrette a lui-même concocté la nouvelle rémunération des DSP et négocié avec le Conseil du Trésor et les ordres professionnels. « J'ai développé une rémunération hybride », insiste-t-il. Pour les spécialistes, ils ont moins que la moyenne des spécialités et pour les omnipraticiens, ils sont au-dessus de la moyenne des omnipraticiens. Selon lui, cette disparité de traitement n'est pas anormale. Un spécialiste, quand il fait un accouchement, c'est payé plus qu'un omnipraticien qui fait un accouchement. C'est comme ça dans la vie médicale, dit-il. Assassiné en voulant réaliser un rêve, ce gentil géant québécois voulait s'installer au Labrador pour vivre sa passion pour la chasse et la pêche. Le Montréalais de 28 ans, tué au Labrador jeudi, habitait la région depuis un mois et s'apprêtait à s'y installer pour de bon, afin d'assouvir sa passion pour la chasse et la pêche. Il allait chercher sa façon à lui de vivre un bonheur, avec la chasse, la pêche, les aurores boréales et les grands espaces. Mais il est tombé sur un fou, relate avec émotion le père de la victime, Alain Dompierre. Vincent Bélanger-Dompierre a été retrouvé mort vers 3 heures du matin dans une résidence où il logeait à Labrador City, une ville située à une trentaine de minutes en automobile de Fermont, au Québec. La police provinciale de Terre-Neuve et Labrador a confirmé qu'un homme de 30 ans, Vince Ward, a été arrêté sur place. Il sera accusé de meurtre prémédité jeudi à la cour de Wabush. Il est en prison depuis. Un costaud qui mesurait 6 pieds 6 pouces et pesait près de 300 livres, Vincent Bélanger-Dompierre, aurait été tué par arme à feu. L'enquête est toujours en cours. Le médecin légiste n'a pas encore établi les causes exactes de cet homicide. La coalition Avenir Québec a confirmé hier que l'ex-animatrice Caroline Proulx portera ses couleurs dans la circonscription de Berthier dans Lanaudière en vue du scrutin provincial du 1er octobre prochain. Caroline est une passionnée, une femme de cœur qui est toujours restée proche des préoccupations de la population, a expliqué le chef de la CAQ, François Legault. Elle a accumulé beaucoup d'expérience tout au long de son parcours professionnel et incarne très bien ce renouvellement dont on a besoin en politique au Québec, a-t-il ajouté. Madame Proulx a notamment été animatrice à l'émission La Fosse aux Lyonnes. La police demande l'aide du public pour retrouver Éric Nollet, un homme de 43 ans qui aurait battu son ex-conjointe qui l'aurait poursuivi armé d'un couteau, samedi en début de soirée à Sherbrooke en Estrie. La victime, une femme de 45 ans, a subi de graves blessures lors de l'attaque, mais sa vie ne serait pas en danger. Le suspect aurait violenté son ex-ami de cœur et l'aurait ensuite poursuivi sur une centaine de mètres avec un couteau. L'agression présumée aurait eu lieu au domicile de la femme sur la rue de l'Ancêtre, dans le secteur de Deauville. Nollet est considéré comme étant dangereux. Le secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, a démenti hier les affirmations d'une chaîne de télévision américaine selon laquelle il aurait qualifié le président Donald Trump d'idiot. La chaîne NBC, citant plusieurs employés non identifiés de la Maison-Blanche, actuels et anciens, a rapporté que M. Kelly avait utilisé ce terme à plusieurs reprises pour parler du milliardaire, estimant être le seul rempart contre une catastrophe provoquée par les pulsions erratiques d'un président qui a une approche discutable des problèmes politiques et des fonctions d'un gouvernement. Le général à la retraite a répliqué hier après-midi par une déclaration diffusée via la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders. « Je passe davantage de temps que quiconque en compagnie du président et nous avons une relation incroyablement franche et solide », a indiqué M. Kelly. Et finalement, 4 randonneurs et 2 alpinistes sont morts dans les Alpes suisses et 5 autres ont été hospitalisés dans un état grave après avoir été contraints de passer la nuit dans le froid et la neige, a annoncé hier la police. Les 4 randonneurs faisaient partie de 2 groupes comprenant au total 14 skieurs italiens, allemands et français, qui effectuaient un périple dans le secteur du Pin d'Arula, 3796 mètres, lorsqu'ils ont été surpris par une tempête. L'alerte a été donnée tôt hier matin par le gardien de la cabane des Vignettes, un refuge que les skieurs étaient censés rejoindre la veille. 7 hélicoptères transportant plusieurs médecins et des guides sauveteurs ont retrouvé les randonneurs, dont plusieurs étaient en état d'hypothermie, et une personne déjà morte, probablement à la suite d'une chute, a précisé la police. Transportées à l'hôpital, 3 personnes n'ont pas survécu et 5 autres sont toujours dans un état grave.
Tiré de son premier album, Steffi Choc, et la pièce Rébarbative.
Les journaux régionaux, désillusion chez les profs. David Rémignard qui signe cet article dans Le Soleil. Classes surpeuplées, élèves en difficulté, précarité, violence physique et verbale, manque de budget, manque de ressources et surcharge de travail. Épuisés, des enseignants au primaire et au secondaire racontent leur désarroi dans un manifeste coup de poing adressé au ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx. Le document de 163 pages doit être remis en main propre à M. Proulx ce mardi par Jessica Dorval et Viviane Lagacé, instigatrices du projet. Toutes deux enseignantes depuis seulement 2 ans, elles dirigent le groupe Prof en mouvement, lancé en février, qui regroupe 5500 membres sur une page Facebook privée. Pourtant, fraîchement sorties de leur baccalauréat, elles s'interrogent déjà sur leur choix de carrière. Et elles ne sont pas les seules. En 3 semaines, ont-elles expliqué lors d'une rencontre avec le Soleil, les 2 jeunes femmes ont colligé 85 témoignages d'enseignantes et d'enseignants de tous les âges et de toutes les régions du Québec. On aurait pu en avoir 300, mais il fallait s'arrêter. Le portrait du système d'éducation québécois brossé dans le manifeste, dont le Soleil a obtenu copie, n'est pas flatteur. Intitulé « Nous voulions changer le monde, sauf que… » Il témoigne du désenchantement de ces travailleurs pour la profession qu'ils ont choisie. Profession qu'ils aiment encore pour la majorité, mais qui est, selon eux, de moins en moins supportable. Plusieurs y racontent être ou avoir été en arrêt de travail, en burn-out, complètement vidé. D'autres ont déjà quitté le métier ou vont le faire prochainement, désabusés. La statistique veut qu'un enseignant sur 4 quitte le milieu avant 5 ans. Les récits, tantôt virulents, tantôt posés, évoquent à plusieurs reprises un trop grand nombre d'élèves aux besoins particuliers placés dans les classes régulières. La composition des classes qui est rendue phénoménale. Ce ne sont plus des classes régulières, ce sont des classes d'adaptation scolaire, mais sans ressources, commente Viviane Lagacé à ce sujet. Le manque de spécialistes, orthopédagogues, psychologues, techniciens en éducation spécialisée, les infrastructures inadéquates, trop petites, surpeuplées, et divers troubles de comportement ou d'apprentissage observés chez les élèves sont aussi rapportés. La précarité est également au cœur des préoccupations. « Ça ne va pas bien », lance sans détour Mme Lagacé, 27 ans. « Tout ça sont des facteurs qui me font hésiter sur ma carrière », raconte-t-elle à l'image de nombreux témoignages du manifeste. Je pense qu'il est temps que ça change. Ce n'est pas le milieu auquel je m'attendais après mes 4 ans d'université. » Jessica Dorval, 24 ans, s'est quant à elle posé toutes sortes de questions en entendant la réalité décrite par certains de ses collègues de travail. « Est-ce que je vais être capable? Si je ne veux pas faire partie du 25% qui décroche, on va essayer de changer les choses », s'est-elle dite, d'où l'idée de Prof en mouvement, puis du manifeste. « Je ne sais pas si ça va marcher, mais on essaie. » Mis à part les expériences racontées par Mesdames Dorval et Lagacé aux fins de la présente entrevue, les témoignages inclus dans le document sont anonymes. Aucune commission scolaire n'est mentionnée, aucune école, et ce, afin de laisser les enseignants parler librement. Le manifeste se veut constructif, soulignent ses responsables qui ont ajouté des recommandations à la fin du document. Plusieurs des témoignages sont accompagnés de pistes de solutions. Prof en mouvement en a retenu quelques-unes après avoir été soumises à un vote auprès des membres. La principale est de diminuer le nombre d'élèves dans les classes et d'offrir du soutien pour les élèves handicapés et ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Prof en mouvement réclame également de meilleures conditions de travail, une reconnaissance de l'expertise des enseignants et donc les consulter, et une diminution de la précarité dans le milieu de l'éducation. La Tribune, une exclusivité signée Isabelle Pillon, la microbrasserie Ciboire pourrait s'agrandir sur la rue du Dépôt. L'entreprise sherbrookoise convoite les espaces laissés vacants par Transdev Limocar qui a inauguré lundi ses nouveaux locaux sur la rue King West. Ciboire, qui est actuellement locataire, aimerait acquérir le bâtiment. Des pourparlers sont en cours avec Service Immobilier First, qui est propriétaire de l'édifice. Dans le droit, ville verte, centre-ville gris. Mathieu Bélanger, Gatineau s'affiche un peu partout comme une ville verte, mais son centre-ville est loin d'être représentatif de l'image que la ville veut projeter. L'île de Hull affiche l'un des pires indices de canopée au Québec. En d'autres mots, les îlots de chaleur asphaltés, la trame urbaine et le passé industriel du centre-ville n'ont laissé que très peu de place aux arbres et à leur couvert végétal. L'indice de canopée du centre-ville de Gatineau atteint tout juste 16 %. La ville de Montréal affiche un indice d'un peu plus de 20 %. Elle s'est d'ailleurs dotée d'un plan d'action Canopée 2012-2021, dont l'objectif est de faire passer le couvert végétal des arbres à 25 %. La ville de Québec est loin devant avec un indice de 32 %. On veut commencer le travail là où c'est plus compliqué, là où il faut retirer l'asphalte, réaménager et planter, dit Laurence Coulombe. Il y a donc bien du travail à faire dans le centre-ville de Gatineau et le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais entend s'y attaquer avec vigueur. Certains efforts ont été faits au cours des dernières années, note Laurence Coulombe, qui conduit le projet de verdissement du centre-ville, R ou Vert, ou trait d'union vert, notamment dans le quartier du musée et sur les terrains de l'école secondaire de Lille. Le verdissement de la cour de l'école Saint-Rédempteur doit aussi avoir lieu d'ici l'automne. La crise de la grille du Frêne est cependant venue compliquer la tâche. De très nombreux arbres ont dû être abattus partout à Gatineau. Les cicatrices sont notamment bien visibles au parc Fontaine. L'endroit doit d'ailleurs faire l'objet d'un réaménagement. Le CREDO, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, souhaite avancer dans ce projet en consultant les citoyens. Dans le Nouvelliste, Audrey Tremblay, les artisans et les amateurs d'achat local de la région pourront se rencontrer les 5 et 6 mai lors de la toute première édition régionale du marché printanier Etsy, fait au Québec qui s'arrêtera au Musée québécois de culture populaire. L'événement mettra de l'avant des produits uniques créés à la main par des artisans Etsy de la Mauricie et du Centre du Québec. L'équipe Etsy Centre du Québec-Mauricie qui organise l'événement veut permettre à la communauté locale de briller et de montrer leur personnalité unique. Nous participons au marché annuel Etsy, fait au Québec depuis 2 années déjà. C'était donc naturel pour nous de vouloir prendre part à cette nouvelle édition printanière et de présenter toutes les marchandises saisonnières que nos artisans n'ont jamais eu l'occasion de montrer, a affirmé Stéphanie Miller, capitaine de l'équipe Etsy Centre du Québec et Mauricie. Et dans le quotidien Megan Dionne, le 1er mai marque le 20e anniversaire de la sortie de Dehors Novembre, le dernier album du groupe Les Colocs. Au restaurant Des Délicieux de Normandin, qui a Pignon-sur-Rue, dans le fameux centre d'achat de la rue principale, André Fortin est toujours bien vivant. C'est un peu comme si c'était hier la sortie de ce disque. Ça nous rappelle vers quoi il s'en allait. Il y a quelque chose à retenir de ça. Ça éveille aussi pour la prévention du suicide. C'était sombre, mais ce n'est pas pour rien, assure la copropriétaire du restaurant, Émilie Frigon. Comme le souligne Marie-Josée Girard, elle aussi copropriétaire du restaurant, c'est plutôt le côté coloré de des Fortins que les deux femmes d'affaires ont voulu mettre de l'avant. Notre but, c'est de le faire revivre sous son beau jour. Il en a écrit des chansons joyeuses aussi, et c'est ça qu'on souhaite exposer, exprime-t-elle. Le restaurant se trouve aussi à être un petit musée. Les napperons racontent l'histoire qui se cache derrière les chansons les plus populaires de Dédé. Sur les murs, des affiches, photos, objets personnels du chanteur y sont exposés. Même le nom des articles sur le menu font référence au colloque. Le frère de Dédé nous a remis des items qui lui appartenaient comme des souliers, des lunettes que nous avons soigneusement placées dans un petit boîtier que les gens peuvent voir, fait valoir la jeune copropriétaire originaire de Normandin. Parmi les visiteurs, on compte des Janois, bien sûr, mais aussi des touristes d'un peu partout au Québec qui font le détour pour visiter le village natal de Dédé Fortin, que ce soit ou non durant le festival organisé en son honneur, qui ne reviendra malheureusement pas. Le Dédélicieux est ouvert depuis bientôt 6 ans. Les copropriétaires du restaurant ont décelé le potentiel économique qui n'était pas exploité à sa juste valeur à l'époque. Et concernant l'album de novembre, l'album de 9 chansons s'ouvre sur Belzébuth, une longue plage qui dure 9 minutes 20 secondes, donc totalement inutilisable par la majorité des radios. C'est ça la liberté de créer sans contrainte. Il y est question d'un chat qui s'enfuit de chez ses maîtres pour retrouver la ruelle, la liberté, l'amour et la mort. Une belle histoire qui ressemble à un court-métrage. André Fortin en avait d'ailleurs fait à l'origine le synopsis d'un film. Merci d'écouter l'émission Le quotidien des quotidiens à l'antenne de Canal M de Vuzévoix. C'est Hélène Denis qui vous accompagne à venir, entre autres, les actualités culturelles.
Je me sens brocante, je suis la méchante. Si mes enfants m'invitent, je fais la pas contente. Et quand ils me visitent, je suis la transparente. Je me sens palote, je me sanglote. Mes enfants me nettoient, des inconnus me sortent. À croire quand je me vois que je suis déjà morte. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète. Si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Fait momie. Mes enfants me déplacent comme un vieux manuscrit. Et j'ai les feuilles qui cassent et je suis mal écrit. Je me sens bizarre, je me vis trop tard. Si je repense aux instants où j'ai fait sans savoir la course avec le temps sans me dire au revoir. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète. Si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète. Si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la tête, n'ayez pas trop pitié. Bientôt je serai bête et vous aurez oublié.
De son album Recto Verso, c'était Zaz et la chanson Si je perds.
Planche à l'hôpital, c'est un article de Katia Gagnon dans la presse d'aujourd'hui. Les spectateurs qui iront voir le dernier sacrement au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, seront accueillis au deuxième étage au sortir de l'ascenseur. En les faisant entrer dans une unité de soins palliatifs créée de toutes pièces, on leur attribuera l'une des trois familles qui y ont des proches. Dans l'une des chambres, ils assisteront à la lecture d'un testament. Dans une autre, on célébrera un mariage parce que oui, il y a des gens qui se marient juste avant de mourir. Et puis, on dirigera les spectateurs vers la chambre de Denis Prudhomme, professeur de sciences politiques spécialisé dans les religions, celui qui, à la fin de la pièce, va mourir. Denis Prudhomme, c'est Denis Bouchard, celui qui a écrit et qui jouera le rôle principal dans Le Dernier Sacrement, une expérience de théâtre immersif qui a pour thème le doute et la fin de vie. Un travail d'acteur très particulier, puisque dans cette chambre qui permet aux étudiants en médecine de pratiquer leur futur métier avec de faux patients, les 60 spectateurs seront à quelques mètres à peine de l'action. C'est un exercice d'acteur fascinant. Émotivement, je ne sais pas quelle tournure ça va prendre parce qu'on va être très proche des spectateurs. On ne peut pas tricher. C'est à mi-chemin entre une télé-réalité et une pièce de théâtre. Tout est hyper réaliste, dit Denis Bouchard. Difficile de jouer la mort dans un tel contexte? J'ai consulté des médecins, des gens qui travaillent aux soins palliatifs, qui m'ont expliqué c'est quoi la respiration agonale. Je vais jouer sur la respiration et sur le regard, qui est, semble-t-il, très intense. La pièce est présentée au CHUM à compter d'aujourd'hui. Elle migrera ensuite sur les planches du Théâtre Outremont. Pourquoi est-ce important de jouer cette pièce à l'hôpital? Cette pièce a été conçue à partir de réflexions et de choses que j'ai vues dans les unités de soins palliatifs. Dans un premier temps, on a voulu reproduire une chambre sur scène. Et puis, je me suis dit, « Mon Dieu, je devrais faire ça dans un hôpital. » Mais où? Le Royal Vic est vide, l'Hôtel Dieu est vide. J'ai toujours aimé ça faire des pièces en dehors du théâtre, dit-il. Ici, j'ai bien plus qu'un décor. Denis Bouchard a passé beaucoup de temps dans les endroits où on côtoie la mort pour écrire cette pièce. La pièce est partie d'une phrase que j'ai lue qui disait que les gens qui avaient la foi mouraient plus en paix. Ça m'a interpellée. Je me suis dit que c'était mal parti pour moi. Ça m'a amenée à me poser la question de la fin de vie. Au cœur de la pièce de Denis Bouchard, il y a donc cette question fondamentale de la religion. Le patient prud'homme est agnostique. Il a vécu toute sa vie dans le doute. Son infirmière, Ayana Oshun, est croyante. Au fil de la pièce, il rencontrera également la fille de l'infirmière, Sophia Blondin, qui est non seulement croyante, mais également pratiquante. Ces trois générations et trois points de vue sur la religion, explique Denis Bouchard. C'est difficile pour les gens de ma génération de voir ce retour en force des religions. On pensait que c'était réglé. Et là, il s'ouvre une synagogue ou une mosquée par semaine à Montréal. Mais les plus jeunes nous disent souvent, « Nous, on n'a pas eu à souffrir des religions. Ce n'est pas une pièce qui condamne la religion. C'est une pièce qui questionne. » Malgré ses thèmes plutôt tragiques, la pièce est une comédie. Car Denis Bouchard a été renversé par les patients et les soignants rencontrés dans ces lieux de fin de vie. Je pensais que c'était des endroits d'une tristesse sans nom. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'on célèbre la vie en fin de vie. J'ai rencontré des gens en fin de vie avec un humour incroyable. J'ai entendu des phrases que j'ai carrément mises dans le show parce que je trouvais ça trop beau. Un exemple? « J'aimerais ça manger vos chocolats, mais je peux pas. Je rentrerai pas dans mon urne. » Rire de la mort. Un pari casse-gueule? Au départ, j'avais des craintes. Je ne pensais pas écrire une comédie. Je pensais écrire à partir de ce que je vivais, de ce que je voyais. Mais les gens qui étaient là-dedans, ils me faisaient rire. Les gens qui travaillent aux soins palliatifs qui sont là depuis 30 ans, le contact qu'ils ont avec les gens en fin de vie, j'ai voulu rendre hommage à ces personnes. Et surtout en faisant mourir Denis Prud'homme, Denis Bouchard a pu faire la paix avec la mort de son père, mort d'un AVC il y a 5 ans. C'est torve, un deuil. Quand mon père est mort, j'ai mis ça sur le back burner. Et des années plus tard, je me suis farci une peine d'amour aussi subite qu'inattendue. C'est venu faire revivre quelque chose de pas réglé. En ce sens, la pièce a été une catharsis. Le dernier sacrement sera présenté au CHUM, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 mai. Les fonds recueillis iront en partie à la fondation de l'hôpital universitaire. La pièce reprendra au Théâtre Outremont du 17 au 19 mai. Le directeur artistique du Théâtre de Quatsou, Olivier Kemed, a fait du pouvoir le terrain de jeu de sa saison 2018-2019, rappelant lundi que derrière la façade dirigiste de ce mot, il y a aussi un verbe gros de promesses et de liberté à gagner. L'automne débutera en Lyon avec les Barbelés d'Annick Lefebvre après un baptême convaincant à la Colline à Paris. Suivra un duo solide formé de Catherine Vidal et de Marc Beaupré à la barre de la fresque italienne « Chapitre de la chute, la saga des Lehman Brothers ». L'automne finira sur un texte de Rose Maïté Erko-Reka, souveraine au pluriel, sur le pouvoir au féminin. Janvier jouera sur la peur et la culpabilité avec « Noir » de Jérémy Niel. Et succéderont les identités morcelées de « Première neige, First Snow », une collaboration québéco-écossaise, Le mot de la fin sera tout bergmanien avec scène de la vie conjugale. La chanteuse française Rose Laurence, qui s'illustra avec le morceau Africa, tube des années 1980, est décédée à 65 ans dans la nuit de dimanche à lundi, des suites d'une longue maladie, a indiqué son compagnon Christian Soulier à l'AFP, l'agence France-Presse. Elle vous a fait danser par millions en créant Africa et en chantant Quand tu pars et des dizaines d'autres titres. La flamme de Rose Laurence vient de s'éteindre à la suite d'une longue maladie à laquelle elle résistait encore sur la scène du Cabaret Sauvage en 2016, écrit-il dans un communiqué. Une partie de bras de fer oppose le producteur portugais Paulo Branco au Festival de Cannes. La société de M. Branco, Alfama Film, basée en France, a demandé que soit interdite la projection le 19 mai en clôture du rendez-vous de L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, dont la sortie est prévue le même jour en salle française. Ce projet déclaré maudit avait viré au cauchemar lors d'un premier tournage en 2000 qui connut tous les cataclysmes de l'enfer. Le chevalier à la triste figure se voit incarné par Jonathan Pryce dans une adaptation très libre du roman de Cervantes. Un contentieux sur les droits d'auteur oppose le cinéaste britannique au producteur sous couvert de contrats résiliés que Branco conteste. La requête sera examinée le 7 mai, veille de l'ouverture du festival, scellant le sort de sa projection cannoise. Après Quatre ennemis et l'auberge du chien noir, le couple d'auteurs Sylvie Lucier et Pierre Poirier s'attelle au milieu rural dans une dramatique annuelle qui prendra l'antenne de Radio-Canada au cours de la saison 2018-2019. Leur nouvelle saga familiale, sur fond d'intrigues policières et dont aucun titre n'est arrêté pour le moment, s'intéressera au clan de Marilus, incarné par Maude Guérin, l'aînée d'une fratrie de cinq sœurs, toutes pourvues d'un prénom composé qui commence par Marie. C'est une femme forte et fragile à la fois qui travaille très fort, a indiqué Maude Guérin, qui se glissera dans la peau de la propriétaire d'une ferme, héritée de son père, mais reconvertie en entreprise bio. « Ça se rapproche beaucoup de moi. Je joue souvent des filles très sensuelles et colorées, mais là, j'aime que je vais travailler plus près de la vérité. Du personnage que je suis », a reconnu l'actrice originaire de La Tuque.
Les jours et les saisons, la couleur de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux, le chemin de ta maison. Comment se maquille les yeux, la fête de tes enfants, mais oublie pas mon nom. Tes souvenirs d'avant, je verrai sur eux, je les rattraperai au vent, je te raconterai si tu veux. Je nourrai des ficelles, des souvenirs qui s'étialent, et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerveaux. Thank you. je t'écrirai que je t'aime. Partout dans la maison. Et si tu m'oublies quand même, juste en dessous y aura mon nom. Et je serai là pour de bon. Et je serai là pour de bon. Je nourris des ficelles à tes souvenirs qui s'étialent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon.
Tiré de son album Ma petite mamselle de chemin, c'est Ingrid Saint-Pierre et la pièce Ficelle.
Sujet libre, nouvelle de dernière heure dans la presse. Maxime Bergeron, les 7 députés démissionnaires du Bloc québécois ont confirmé mardi matin la rupture définitive de tous leurs liens avec le parti séparatiste. Ils ont confirmé donc ce matin leur intention de travailler à la conception d'une nouvelle offre politique fédérale. Il s'agit d'une rebuffade majeure pour la chef du Bloc, Martine Ouellette, qui se retrouve avec seulement 2 députés dans la formation qu'elle dirige. La série Les Simpsons a battu dimanche le record du plus grand nombre d'épisodes pour une série à la télévision américaine. Fox a diffusé ce soir-là le 636e épisode de l'histoire de la famille Simpson, dépassant la série western Gunsmoke, c'est ça, qui s'était arrêtée à 635 épisodes en 1975 après 20 années à l'écran. Fox s'est déjà engagé à diffuser la série au moins jusqu'en 2019, lui assurant d'atteindre sa 30e saison. Vitesse réduite, constat d'échec à Beaconsfield. 10 ans après avoir réduit de 50 à 40 km/h la vitesse dans ses rues, Beaconsfield constate qu'une infime minorité d'automobilistes respecte cette limite. Des experts en sécurité routière y voient une autre démonstration que réduire la vitesse sur les panneaux de signalisation ne suffit pas. Il faudrait revoir la configuration des rues pour inciter les conducteurs à lever le pied. Pierre-André Normandin dans la presse d'aujourd'hui. Donc, c'est son texte à lui. 10 ans d'études, la ville de Beaconsfield a annoncé en 2005 qu'elle prenait le virage du 40 km/h dans ses rues résidentielles afin de tenter de calmer la circulation sur son territoire, une opération qui s'est terminée en 2007. Elle a toutefois continué de recevoir de nombreuses plaintes de citoyens par rapport à la vitesse des voitures. Depuis 10 ans, son comité de circulation a commandé 1 000 000 d'études, 1 001 pour être précis, afin d'évaluer le respect des limites sur divers tronçons. Et les résultats d'une récente compilation de ces études sont sans équivoque. On s'est aperçu, particulièrement dans les zones scolaires, que très peu de gens respectent les limites, se désole Georges Bourrel, maire de Beaconsfield. Beaconsfield a poussé l'exercice plus loin en comparant les résultats obtenus depuis 2007 à ceux de 712 études de circulation réalisées dans les 10 années précédentes. Et surprise, la diminution de 50 km/h à 40 km/h dans les 100 km de rues résidentielles de la municipalité n'a pas entraîné de baisse de la vitesse. La vitesse moyenne est demeurée sensiblement la même, 44 km/h dans les zones de 30 km/h et 46 km/h dans les zones de 40 km/h. La Société de l'assurance automobile voit dans ses résultats une autre démonstration de la banalisation des excès de vitesse. Autant on a réussi à en arriver à un consensus sur la question de l'alcool au volant pour la vitesse, on n'en est pas là, constate Gino Desrosiers, porte-parole de la SAAQ, la SAAQ. La vitesse est pourtant l'une des principales causes des accidents mortels sur les routes du Québec, souligne la société. La vitesse était l'un des deux principaux facteurs dans 36 % des accidents mortels, soit légèrement plus que l'alcool au volant, 33 %. Pour un piéton, 10 km/h de plus, ça peut faire la différence entre la vie et la mort, ajoute M. Desrosiers. Le cas de Beaconsfield n'est pas unique, estime le maire Bourrel. Je n'ai pas l'impression que nous sommes les seuls, que nous sommes uniques quand on se rassemble entre maires. Les autres aussi se plaignent de la vitesse. C'est vraiment un problème généralisé, dit l'élu. Ces résultats concordent en effet avec plusieurs autres études menées ailleurs en Amérique du Nord, confirme Marie-Soleil Cloutier, directrice du laboratoire Piétons et espaces urbains à l'Institut national de la recherche scientifique. Seulement changer la vitesse ne réglera jamais le problème. L'idée, ce n'est pas de dire que ça ne marche pas, mais il faut mettre autre chose en place, dit la chercheuse. Les spécialistes s'entendent. C'est avant tout la configuration de la rue qui dicte la vitesse de la circulation. Les conducteurs adaptent leur conduite à l'infrastructure et les pancartes ont un effet limité, note Marie-Soleil Cloutier. C'est sûr que si les rues sont conçues pour rouler confortablement à 50 km/h, peu importe la limite, les gens vont avoir tendance à rouler à cette vitesse, ajoute Christian Savard, directeur général de l'organisme Vivre en ville. Ils insistent ainsi pour dire que les villes cherchant à calmer la circulation doivent profiter des travaux dans leurs rues pour en revoir l'aménagement, rétrécir la largeur de la voie, ajouter des arbres pour restreindre le champ visuel des conducteurs, ajouter des saillies de trottoirs pour inciter à la prudence aux intersections. Il faut donner l'impression que même à 30 km/h, ça va vite, illustre Mme Cloutier. À Beaconsfield, le maire Bourrel ne croit pas que la solution soit de distribuer davantage de contraventions pour inciter les automobilistes à lever le pied. On a une bonne coopération avec le SPVM. On donne beaucoup de billets, ce n'est pas ça qui manque, mais c'est difficile de responsabiliser les gens. La ville a donc décidé de privilégier une autre approche en misant sur la sensibilisation. Et pour ce faire, Beaconsfield compte passer par les écoles qui distribueront aux élèves une lettre à remettre à leurs parents afin de les inciter à ralentir. On veut que les jeunes retournent à la maison et demandent à leurs parents de s'engager à adopter une bonne conduite. Si les écoliers deviennent plus conscients, peut-être vont-ils dire à leurs parents qu'ils roulent trop vite, espère M. Bourrel. Le Centre d'écologie urbaine de Montréal voit d'un bon œil la campagne lancée par Beaconsfield. Ce qui est intéressant avec la mesure de Beaconsfield, c'est qu'on met de l'avant le principe de prudence, qu'on doit être prudent face à l'usager le plus vulnérable sur la route, dit sa directrice générale Véronique Fournier. Cette dernière ajoute que plusieurs campagnes de sensibilisation devraient voir le jour au cours des prochains mois, alors que Québec a débloqué des fonds pour soutenir ces initiatives. Beaconsfield, qui implantera au cours de l'été des appareils pour afficher la vitesse dans certaines rues, bénéficie d'ailleurs du soutien financier du Fonds de la sécurité du ministère des Transports. Dans la section opinion, égalité homme-femme, pourquoi moi? Rares sont les boulots faits sur mesure et cela ne va pas dire qu'on n'en a pas les capacités, bien au contraire. C'est un article, ou plutôt une opinion de Julie Dupage, actrice, chroniqueuse, animatrice et blogueuse. Il y a quelques mois, un parti m'a approché pour connaître mon intérêt pour une implication en politique active. Cet appel m'a fait l'effet d'une bombe. Prise dans les embouteillages de Montréal, j'ai raccroché et n'ai pu m'empêcher de pousser un « Ah oh ben tabarnouche, pincez-moi, où sont les caméras cachées? » Je rêve de grands rôles à la télé et au cinéma et on m'appelait pour me proposer celui de député de circonscription dans la vraie vie. Quelle surprise! Mon père s'est toujours impliqué en politique pour les Français de l'étranger. Ma grand-mère a été l'une des premières femmes diplômées de l'École des sciences politiques de Paris. Oui, dans ma famille, la politique provinciale, nationale et internationale est importante et se trouve fréquemment au cœur de débats animés, mais de là à faire le saut dans ce domaine. Curieuse et flattée par cette proposition surprenante, je suis allée rencontrer les gens du parti. Je me suis présentée à ce rendez-vous pleine de doutes. Il devait forcément y avoir erreur sur la personne. Ils le réaliseraient bien vite. Les formules de politesse usuelles faites, je n'ai pu m'empêcher de leur demander « Pourquoi moi? » Leur devoir était bien fait. Et ils connaissaient parfaitement leur sujet, ma carrière d'artiste en France, aux États-Unis et au Québec, les nombreuses cordes à mon arc, mes engagements caritatifs depuis des années, mon sens de la communication, mon professionnalisme et même mes opinions sur Julie Lapie. J'étais stupéfaite, pour ne pas dire flabbergastée. Même s'ils m'avaient rassurée et encouragée de façon tangible et concrète, je doutais encore. Et je ne me sentais pas à la hauteur. Je n'y croyais pas. Est-ce qu'un homme dans une situation semblable aurait réagi de la même façon? Probablement pas. Mon amie Isabelle Hudon, maintenant ambassadrice du Canada en France, m'a souvent dit ceci et Sheryl Sandberg tient des propos semblables dans son livre « Lean In » en avant toute. Nous, les femmes, avons tendance souvent à nous excuser et à prétexter un manque d'expertise, alors que les hommes vont sauter sur l'occasion sans se poser même question sur leurs compétences. Si nous voulons un jour atteindre la parité, il faudrait arrêter d'avoir ce réflexe. Rares sont les boulots faits sur mesure et cela ne veut pas dire qu'on n'en a pas les capacités, bien au contraire. Il faut avoir du guts et de l'ambition. J'en ai à revendre et pourtant, doute quand tu nous tiens. J'ai souri en regardant Tout le monde en parle dimanche dernier. Madame Marois évoquait le fait que les femmes sont moins préparées à occuper des fonctions dans le domaine public que les hommes. Bien souvent, elles ne savent pas si elles seront capables de relever un défi, même si elles ont les compétences. Quant à Yolande James, elle parlait de sa journée de prestation de serment comme probablement l'une des plus stressantes de sa vie. Alors, je pense quelques phrases. Après une heure de discussion fort intéressante au cours de laquelle j'ai posé de nombreuses questions, je suis repartie promettant une réponse dans les plus brefs délais. Alors, on se retrouve pour les Par Actualité. Merci Jean-Sébastien Laliberté. Bonne journée à tous.